Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute. Esdras 6, 14 à 16. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agée, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido, ils bâtirent et restaurèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar, dans la sixième année du règne du roi Darius. Les Israélites, les sacrificateurs et les Lévites, et le reste des anciens déportés, firent avec joie l'inauguration de cette maison de Dieu. Zacharie 1, verset 1. Le huitième mois, la deuxième année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie, fils de Berechia, fils d'Ido, en ces mots. L'Éternel a été grandement indigné contre vos pères. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, oracle de l'Éternel des armées. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, à qui les premiers prophètes proclamaient, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez de vos mauvaises voies et de vos agissements mauvais. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas fait attention à moi, oracle de l'Éternel. Chapitre 3, verset 1. Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales !» Puis il lui dit, « Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. » Je dis, « Qu'on mette sur sa tête un turban pur !» Et ils mirent le turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel apporta ce témoignage à Josué. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu gardes mon commandement, c'est toi qui gouverneras ma maison, tu garderas aussi mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. Chapitre 6, verset 11. Tu prendras de l'argent et de l'or. Tu en feras des couronnes et tu les mettras sur la tête du souverain sacrificateur Josué, fils de Yehotsadak. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera là où il est et bâtira le temple de l'Éternel. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera et dominera sur son trône. Il y aura d'autre part un sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les couronnes seront pour Elem, Tobia et Yedaïa, et pour Hen, fils de Sophonie, un mémorial dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront à la construction du temple de l'Éternel, et vous reconnaîtrez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez vraiment la voix de l'Éternel, votre Dieu. Chapitre 9, verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi. Il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. et chapitre 14, verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le Dieu unique, et son nom sera le nom unique. Jusqu'ici la lecture dans la parole de Dieu. Sans huile, un chandelier ne peut pas éclairer. Sans l'Esprit Saint, nous ne comprenons rien à la Bible. Nous comptons sur le Saint-Esprit encore aujourd'hui. Nous arrivons à l'avant-dernier prophète écrivain de l'Ancien Testament dans notre série des 12 prophètes. La dernière fois, nous avons vu Agée, où nous avons parlé du contexte historique. Alors peut-être que vous vous souvenez des 5 dates clés. Alors les 5 dates clés, moins 2000 Abraham, moins 1500 Moïse, moins 1000 David, moins 500 Zorobabel, le retour de l'exil, et zéro Jésus-Christ. Nous sommes au temps de Zorobabel, après l'exil à Babylone. Plusieurs Juifs sont retournés au pays pour reconstruire le temple. Le texte d'Esdras que nous avons lu tout à l'heure nous a permis de comprendre que les paroles d'Agée et Zacharie ont été efficaces. Alors si Agée est le bâtisseur responsable d'assurer une structure solide au nouveau temple, Zacharie est plutôt dans la ligne des artistes, ajoutant des vitraux avec leur symbolique de la gaieté et de la lumière. Alors vous trouverez dans le document en annexe un contexte historique d'écriture que je vous présente rapidement. Donc en moins 522, il y a l'ascension au pouvoir de Darius. Ensuite, le 29 août 520, le premier oracle d'Agée appelant à la reconstruction du temple. Le 21 septembre 520, les Judéens s'attellent à la tâche de reconstruire le temple. Le 17 octobre 520, Agée encourage le peuple par la promesse de l'aide divine et l'annonce de la gloire future du temple. Et entre octobre et novembre 520, Zacharie délivre son premier oracle et appelle à revenir à Dieu. Ensuite, le 18 décembre 520, troisième oracle, purification et bénédiction sur Israël, et quatrième oracle d'Agée, Zorobabel, l'instrument choisi par Dieu. L'année suivante, le 15 février 519, Zacharie aura 8 visions nocturnes. L'année suivante, le 7 décembre 518, il parlera des questions de jeûne. Et le 12 mars 516, c'est l'achèvement des travaux de reconstruction du temple. Plus tard, nous ne savons pas exactement à quel moment, peut-être dans les années 480, eh bien, Zacharie écrira ses visions d'avenir. Le livre de Zacharie est formé de 4 parties. Alors, la première partie est un appel à revenir à l'Éternel et ne pas suivre l'exemple des pères qui n'ont pas écouté les prophètes et ne sont pas revenus à l'Éternel, ce qui a eu pour conséquence la destruction et l'exil. Donc, c'est pas parce qu'ils sont revenus d'exil qu'ils doivent pas maintenant suivre l'Éternel. Deuxième partie du livre de Zacharie nous apporte les 8 visions que le prophète a eues pendant la nuit. La troisième partie est une réponse à une question concernant les jeûnes que les Juifs avaient entrepris de vivre suite à la destruction de Jérusalem. Alors faut-il continuer de jeûner maintenant que nous sommes de retour? Le prophète répond 3 choses. Premièrement, la disposition du cœur est plus importante que le jeûne. Deuxièmement, au lieu de se lamenter sur les malheurs, il vaut mieux en tirer des leçons. Et troisièmement, Dieu va accomplir ses promesses. La quatrième partie du livre de Zacharie a été écrite plus tard. Il y parle de l'avenir, de la venue du Messie et de son retour glorieux. Alors, ayant maintenant le contexte global du livre, nous allons voir 3 choses ensemble. Premièrement, Zacharie aborde les 5 grands thèmes qui dominent le ministère de ses prédécesseurs. Deuxièmement, les 8 visions de Zacharie nous enseigne. Et troisièmement, nous parlerons des prophéties messianiques. Alors, le livre de Zacharie est très dense et nous ne pouvons pas toucher tous les éléments ensemble ce matin, mais j'espère que cela vous fera envie d'aller y creuser encore un peu plus. Commençons par les cinq grands thèmes. Zacharie est l'avant-dernier prophète écrivain de l'Ancien Testament. Après lui, nous trouvons encore Malachie. Et ensuite, 400 ans plus tard, Jean-Baptiste sera appelé le dernier prophète de l'Ancien Testament, mais lui n'a pas laissé d'écrit. Les prophètes, depuis le début, n'ont pas pour but de punir le peuple. Ce n'est pas leur job. En fait, ils se soucient de voir les hommes délivrés, rachetés, et non détruits et condamnés. Le cri le plus cher de tous les prophètes, et Zacharie ne fait pas exception, est cet appel. Revenez à l'Éternel. Dans cette perspective, cinq grands thèmes dominent le ministère des prophètes. Le premier est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Zacharie utilise, par exemple, 46 fois l'expression « l'Éternel des armées », qui souligne la souveraineté de Dieu qui a tout pouvoir, la toute-puissance, la force imbattable. Le livre d'ailleurs se termine en soulignant cette souveraineté dans Zacharie 14:9 où il est dit « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le Dieu unique et son nom sera le nom unique. » Dieu est souverain et cela n'a pas changé. Le deuxième grand thème est l'inflexibilité et la justice du jugement divin sur le péché. L'inflexibilité et la justice du jugement divin sur le péché. Dieu ne change pas, non pas parce qu'il est rigide, mais parce qu'il est saint, parce qu'il est parfait, et il ne tolérera jamais le péché. Personne ne doit imaginer que Dieu un jour tolérera un seul péché. Aucun ne sera laissé impuni. Ce sera soit la mort de Christ qui l'aura payé, soit la perdition éternelle. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors, Jésus-Christ, a-t-il payé pour tes péchés? T'éloignes-tu de tes péchés? Zacharie annonce le jour de l'Éternel avec son jugement, que nous pouvons observer par exemple au chapitre 14. Dieu est inflexible et juste dans son jugement face au péché, et cela n'a pas changé. Le troisième grand thème est l'amour étonnant et infini de Dieu. L'amour étonnant et infini de Dieu. Comment est-ce possible qu'un Dieu bafoué par l'homme qui ne veut pas suivre ses commandements continue à manifester son amour? Déjà Adam et Ève, il ne les a pas laissés tomber alors qu'ils le méritaient complètement. Non, il les a appelés. Où es-tu? Où es-tu? C'est Dieu qui allait les chercher. C'est pas l'homme qui est revenu vers Dieu. Dans Zacharie, nous voyons un Dieu qui aime son peuple, malgré son indignité et ses détours. Nous voyons que Dieu aime son peuple malgré l'indignité et les détours de ce peuple. En Zacharie 1:16, il annonce son retour après avoir corrigé son peuple rebelle. Cela fait partie des visions de Zacharie qui s'accomplissent à son époque. Zacharie 1:16, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie, oracle l'Éternel des armées, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Puis au chapitre 10, au verset 6, en regardant l'avenir, la compassion qui exprime son amour infini est à nouveau soulignée. Zacharie 10:6, « Je rendrai héroïque la maison de Juda et je sauverai la maison de Joseph. Je les rétablirai, car j'ai de la compassion pour eux. Et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel leur Dieu et je leur répondrai. » Cela nous fait penser à l'amour que Dieu a pour les pécheurs, avant même qu'il se tourne vers lui. Il est dit dans Romains 5:8, hein, « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » N'ayez pas peur de vous approcher humblement de Dieu. Son amour est assez grand pour vous accueillir. Dieu manifeste un amour étonnant envers des personnes qui ne le méritent pas. Un amour qui dépasse notre imagination. Un amour tellement grand que Paul prie que les chrétiens en comprennent la grandeur pour en être remplis. Voici ce qui est dit dans Éphésiens 3, à partir du verset 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu est rempli d'un amour étonnant et infini, et cela n'a pas changé. Le quatrième grand thème est le besoin de se mettre en règle avec Dieu. Le besoin de se mettre en règle avec Dieu. Revenez à l'Éternel, chapitre 1, verset 3. Revenez de vos mauvaises voies, de vos agissements mauvais, chapitre 1, verset 4. Zacharie est dans la même ligne que tous les prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste qui appelle à la repentance. Es-tu sur une mauvaise voie? Stop! Ne continue pas. Il n'y a pas une minute à perdre. Il faut mettre ta vie en règle avec Dieu. Ne dis pas « demain, je changerai ». Non, c'est maintenant qu'il faut s'arrêter de pécher. Demain sera peut-être trop tard, ou même cet après-midi. Ta conscience te travaille. N'attends pas, ou elle s'éteindra. Dieu veut que tu mettes ta vie en règle avec lui. Et cela n'a pas changé. Le cinquième grand thème des prophètes est la venue du Messie. Tous les prophètes ont cherché à connaître le temps de la venue du Messie. À chacun, Dieu a donné de connaître quelques éléments de son plan rédempteur. Il est dit dans 1 Pierre 1, versets 10 à 12, hein, les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Et Zacharie a reçu beaucoup d'éléments concernant le Messie. C'est d'ailleurs le prophète le plus cité dans le Nouveau Testament après Ésaïe. Zacharie nous parle de la venue du Messie et de son retour triomphant sur la terre à la fin des temps. Nous allons nous pencher plus en détail sur ce dernier thème dans notre troisième point. Dieu a annoncé la venue du Messie qui s'est réalisée. Il a annoncé le retour de ce Messie. Messie, c'est Christ en grec, hein. Et cela n'a pas changé. Rappelons-nous les cinq grands thèmes des prophètes. Le premier, la souveraineté de Dieu. Le deuxième, l'inflexibilité, la justice du jugement divin sur le péché. Troisièmement, l'amour étonnant et infini de Dieu. Quatrièmement, le besoin de se mettre en règle avec Dieu. Et cinquièmement, la venue du Messie. Ces thèmes n'ont pas changé. Et voici ce que dit Blanchard dans son commentaire. La leçon pour l'homme moderne est que nous n'avons pas besoin d'un nouveau message. La leçon pour l'homme moderne est que nous n'avons pas besoin d'un nouveau message. L'évangile de Jésus-Christ, œuvre souveraine de Dieu, manifestant la justice de Dieu, son amour, son appel et l'accomplissement de ses promesses, reste le message central dont nous avons besoin. Alors apprenons à encore mieux le connaître pour mieux le vivre dans tous les aspects de notre vie. Cette semaine, au lieu de nous demander ce qui devrait changer dans le message de la Bible, nous pourrions nous demander qu'est-ce qui devrait changer dans ma vie pour m'approcher un peu plus d'une vie totalement centrée sur l'Évangile qui ne change pas. Passons maintenant quelques instants à observer les visions de Zacharie. Les 8 visions nous enseignent. Zacharie a eu des visions pendant la nuit. Alors c'est des rêves que Dieu a conduits et dont il se rappelle. Alors comme tous les rêves, je pense que vous avez tous déjà rêvé, il y a des choses étonnantes parfois dans les rêves. Donc, voilà pourquoi il y a des choses étonnantes dans ces visions de Zacharie. Dans la première vision, au chapitre 1, versets 7 à 17, il voit un homme monté sur un cheval roux, suivi d'autres chevaux de 3 couleurs différentes. En fait, cela représente Dieu qui parcourt la terre où les nations sont en repos et tranquilles alors que son peuple est oppressé. Mais l'Éternel n'oublie pas son peuple à qui il va manifester sa compassion et le consoler. Dieu n'oublie jamais son peuple, même lorsqu'il l'a corrigé. Dieu n'oublie jamais son peuple, même lorsqu'il l'a corrigé. La deuxième vision, chapitre 2, versets 1 à 4, il voit 4 cornes. Ce sont les 4 empires de la vision de Daniel. Babylone, les Mèdes et Perses, les Grecs et Rome. Et les forgerons qui viennent abattre les cornes annoncent le jugement. Dieu jugera toujours les ennemis de son peuple. Dieu jugera toujours les ennemis de son peuple. La troisième vision, chapitre 2, versets 5 à 17, un homme mesure Jérusalem. Jérusalem sera reconstruite. Et non seulement cela, mais Dieu va demeurer dans son peuple. Zacharie 2, 14 nous dit « Pousse des cris de triomphe et réjouis-toi, fille de Sion, car me voici, je viens et je demeurerai au milieu de toi, oracle de l'Éternel. » Et cela s'est réalisé lors de la venue de Jésus-Christ. Dieu ne laisse pas son peuple dans la ruine. Il le rejoint pour reconstruire et son royaume éternel ne sera jamais détruit. Dieu ne laisse pas son peuple dans la ruine. Il le rejoint pour reconstruire et son royaume éternel ne sera jamais détruit. La quatrième vision, chapitre 3, 1 à 10, Zacharie voit Josué, qui est un sacrificateur comme lui d'ailleurs. Mais Josué est le souverain sacrificateur, donc le représentant du peuple. Satan accuse Josué, qui est couvert d'un vêtement sale. Et voilà qu'une parole formidable se fait entendre. Zacharie 3, 4. Ôtez-lui les vêtements sales, puis il lui dit, « Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. » Et Satan ne pourra plus l'accuser. L'Éternel des armées engage ensuite Josué à garder ses commandements. Ça nous fait penser à Romains 8, les versets 33 et 34 qui nous disent, « Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Dieu purifie, et lorsqu'il le fait, c'est pour de bon. Dieu purifie, et lorsqu'il le fait, c'est pour de bon. Même Satan, le pire ennemi, ne peut plus accuser, car tout est payé. Christ, a-t-il tout payé pour toi ? La cinquième vision, chapitre 4, versets 1 à 14, fait voir un chandelier avec 2 oliviers pour faire comprendre à Zacharie que c'est l'Esprit de Dieu qui est notre force. C'est là que nous trouvons ce fameux verset dans Zacharie 4, 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, et voilà le texte qui est connu. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dieu indique la source de la vraie puissance, la puissance spirituelle de la grâce divine. Dieu indique ici la source de la vraie puissance, la puissance spirituelle de la grâce divine. Donc cherchons à être remplis d'Esprit Saint. Cherchons-le de tout notre cœur. La sixième vision, chapitre 5, 1 à 4, un rouleau qui vole, qui représente les jugements de Dieu. En fait, Dieu juge tout mal, et celui qui fait le bien n'a rien à craindre. Dieu juge tout mal, celui qui fait le bien n'a rien à craindre. Celui qui fait le mal, par contre, fait mieux de se détourner du mal et demander grâce, car le jugement est inflexible. La septième vision, chapitre 5, 5 à 11, une femme est mise dans un boisseau, c'est un grand pot, avec un couvercle en plomb dessus, et elle représente la méchanceté. Elle est déplacée jusqu'à Babylone, qui représente l'ennemi du peuple de Dieu, comme dans l'Apocalypse. Il y a beaucoup de liens d'ailleurs entre Zacharie et l'Apocalypse. Dieu enfermera et anéantira l'ennemi, mais avant le jugement final, il y aura encore des luttes. Dieu enfermera et anéantira l'ennemi, mais avant le jugement final, il y aura encore des luttes. La huitième vision, chapitre 6, 1 à 8, quatre chars sont tirés par des chevaux de quatre couleurs différentes. Ils parcourent la terre pour exercer les jugements. En fait, Dieu ne laissera pas le mal impuni. Dieu ne laissera pas le mal impuni. Alors, toutes ces visions laissent une forte impression sur Zacharie, qui se rend compte que si Dieu est compatissant et bienveillant, il est aussi juste et saint. Et nous devrions aussi avoir une vue de Dieu qui n'écarte aucun aspect, même s'il est parfois difficile de maintenir sa colère à côté de sa bonté. Nous sommes appelés à voir Dieu tel qu'il est. Car c'est ainsi que nous entrons dans l'obéissance et la soumission. Nous ne cherchons pas à formater Dieu à notre pensée, mais nous cherchons ainsi à formater notre pensée à ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Prenons encore quelques instants maintenant pour des prophéties messianiques. C'est notre troisième point. Et il y en a tellement dans Zacharie. Vous savez, Philippe est parti d'Ésaïe pour parler de Jésus-Christ à l'Éthiopien. Eh bien, nous pourrions aussi partir de Zacharie. Nous pourrions commencer avec le verset 4 du chapitre 1, où il est dit « Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas fait attention à moi. » Il serait facile de faire le lien avec Jésus-Christ, qui a été rejeté par les siens. Jean le dit bien, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Mais j'aimerais vous amener au chapitre 6 pour un passage riche. J'intitule ceci « Le Messie, germe, temple, roi, sacrificateur ». Le Messie, germe, temple, roi, sacrificateur. Et c'est Zacharie 6, 12 et 13. Zacharie 6, 12 et 13 que je vous lis. « Tu lui diras, ainsi par l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Il germera là où il est et bâtira le temple de l'Éternel. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté, il siégera et dominera sur son trône. Il y aura d'autre part un sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. » Alors le germe dont il est question ici est clairement Jésus-Christ. Il est dit ici qu'il construira le temple de l'Éternel, pas un temple pour l'Éternel, mais le temple de l'Éternel. Vous vous souvenez peut-être des paroles de Jésus lorsqu'il a dit « Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. » Et il parlait de lui-même, en fait. De plus, il est un temple dont Jésus est le fondement. Voici ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 3:11. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Il est un temple dont Jésus est la pierre angulaire. Éphésiens 2, 20 à 22, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. » Il est un temple dont nous sommes les pierres vivantes. 1 Pierre 2, 4 à 6. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. » S'il est question d'un temple, dans le texte de Zacharie 6, 12 et 13, il est aussi question d'un trône. Ce trône est tout à fait particulier, car il semble que deux personnes y sont assises, un roi et un sacrificateur. Et pourtant, la parfaite union nous fait penser à une seule personne. En fait, Jésus-Christ réunit tout cela de plusieurs manières. Mais laissons pour aujourd'hui sa double nature pour nous concentrer sur ses offices. Les offices de roi, sacrificateur et prophète. Or, les questions des deux premiers ici. Hein, et personne ne pouvait être en même temps roi et sacrificateur. Le roi Ozias a voulu jouer au sacrificateur. Et il a été sur le champ frappé par une lèpre qui ne l'a plus jamais quitté. On ne pouvait pas être roi et sacrificateur. Avez-vous déjà pensé qu'après Jean-Baptiste, il n'y a plus aucun prophète à la suite de Moïse autre que Jésus-Christ? Avez-vous déjà pensé qu'après la destruction du temple en 70, il n'y a plus jamais eu de sacrificateur? Jésus étant le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, et comme il ne meurt plus après sa résurrection, ben il n'y en aura plus jamais d'autre. Avez-vous déjà constaté qu'il n'y a aucun roi qui a régné sur le peuple juif depuis le temps de Jésus? Quand Jésus vient, il inaugure la nouvelle alliance. Il est venu, il a inauguré la nouvelle alliance, et on pourrait dire qu'il a absorbé les trois offices. Voilà pourquoi Zacharie 6, 13 est possible. Alors j'ai pris un peu de temps pour ce verset, dans le chapitre 6, pour vous présenter Jésus le temple, le fondement, le roi, le sacrificateur. Mais nous pouvons aussi lire quelques autres passages où je vous invite à réfléchir à leur accomplissement et peut-être même pourrez-vous me dire où se trouve la description de ce qui s'est passé. Le Messie roi humble. Le Messie roi humble, Zacharie 9, 9. Zacharie 9, 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Vous avez une idée de quand ça s'est accompli? Mais oui, évidemment. Cela s'est accompli lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem, que nous appelons le jour des rameaux. Et vous pouvez lire cela dans Matthieu 21, versets 1 à 11. Une autre prophétie. Le Messie transpercé. Le Messie transpercé dans Zacharie 12, 10. Zacharie 12, 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. Et cela s'est accompli à la croix, lorsqu'un soldat perça le côté de Jésus avec sa lance. Jean 19, 33, 37. Une autre prophétie, le Messie vendu, le Messie vendu, Zacharie 11, 12 et 13. Zacharie 11, 12 et 13. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le faites pas. Ils pesèrent pour mon salaire 30 pièces d'argent. L'Éternel me dit, « Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. » Je pris les 30 pièces d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Et cela s'est accompli exactement, vous vous souvenez? Judas a vendu Jésus pour le trahir pour 30 pièces d'argent, qu'il a d'ailleurs jeté dans le temple par la suite, et cet argent a été utilisé pour acheter le champ du potier. Matthieu 27, 1-10. Une autre prophétie encore. Le Messie berger frappé. Donc les brebis sont disséminées. Le Messie berger frappé, brebis disséminées. Zacharie 13, 7. Zacharie 13, 7. Épée, réveille-toi contre mon berger et contre l'homme qui est mon compatriote. Oracle de l'Éternel des armées. Frappe le berger, et que les brebis se disséminent, et je tournerai ma main vers les petits. Jésus a averti ses disciples que cela allait arriver, qu'ils allaient tous l'abandonner, et il l'a fait en s'appuyant sur cette prophétie. Matthieu 26, 31-32. Et une dernière prophétie, il y en a d'autres, mais c'est la dernière qu'on voit ensemble aujourd'hui, c'est le Messie et la robe de justice. Le Messie et la robe de justice. Zacharie 3, 4. Zacharie 3, 4. Qui dit, « Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui le vêtement sale. » Puis il lui dit, « Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. » Et cet habit précieux, c'est la robe de la justice que Jésus-Christ nous donne lorsque nous nous repentons et que nous croyons. En conclusion, nous nous sommes rendus compte que Zacharie est un livre très vaste. Or, il commence par encourager le peuple dans la reconstruction, premier chapitre. Et ensuite, nous voyons qu'il a des visions qui nous fait connaître Dieu sous différents aspects. Il répond à des questions sur le jeûne et nous présente ensuite le Messie. Sa première venue et son retour glorieux. Alors j'aimerais nous laisser avec deux questions. Qu'est-ce que le fait de connaître Dieu de façon plus équilibrée va changer dans notre manière de vivre notre semaine? Qu'est-ce que le fait de connaître Dieu de façon plus équilibrée va changer dans notre manière de vivre notre semaine? Et qu'est-ce que la connaissance du Messie, de Christ, va changer dans notre façon de gérer les relations cet après-midi, demain et toute la semaine? Qu'est-ce que la connaissance du Messie va changer dans notre façon de gérer les relations cet après-midi, demain et toute la semaine? Alors si rien ne change, je me demande si nous avons vraiment compris ce que Dieu voulait nous dire. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes dans la reconnaissance de pouvoir lire ta parole. Merci pour ce prophète Zacharie qui nous permet d'être encouragés, qui nous permet de chercher à être équilibrés lorsque nous pensons à toi. Te remercions parce qu'il nous donne aussi la joie de voir que tout ce que tu as annoncé s'est accompli. Il nous permet aussi de connaître différents aspects de ce que notre Sauveur a vécu. Et notre Père, notre Seigneur, nous te prions que tout ce que nous avons entendu ne reste pas comme quelque chose de flottant dans l'air ou comme quelque chose de sympa qu'on a entendu, mais que Seigneur, ce qu'on a entendu de ce prophète Zacharie puisse réellement avoir un impact dans nos vies et que nous puissions par exemple rechercher à être remplis du Saint-Esprit, que nous cherchions à vivre dans nos relations d'une manière qui est paisible, aimante, humble, comme notre Messie. Ô Seigneur, j'aimerais te prier vraiment de nous guider, aussi particulièrement dans ces temps plus difficiles. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de continuer à nous aimer, de redoubler d'efforts dans l'amour que nous voulons vivre les uns pour les autres. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.